chapitre 2, versets 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On étudie ce livre de Jacques depuis un petit moment, et après avoir vu dans ce livre que les chrétiens étaient à ce moment-là dans la persécution, dans l'épreuve, ils étaient tentés par mille et une choses, et surtout de se venger de leurs ennemis, de se mettre en colère en tout cas contre eux. On avait vu aussi la dernière fois le favoritisme, qui est un péché qu'on minimise un peu dans notre vie bien souvent, mais qui reste un péché. Là, maintenant, Jacques, il est en train de remettre un peu en question peut-être même la foi des chrétiens, enfin, s'ils sont vraiment chrétiens, et il donne une espèce de test pour savoir si on a réellement la foi. Savoir, est-ce que je suis vraiment sauvé ou est-ce que je ne suis pas sauvé? Et on va voir, au travers de ce qu'il nous dit, qu'on peut faire ce test quelque part, parce que la foi, comme il dit, doit produire normalement quelque chose dans notre vie. Il fait d'abord un constat, à quoi sert-il d'avoir la foi sans les œuvres? Qui paraît bête, mais en même temps, il s'adresse là aux frères. Il parle à l'Église puisqu'il dit « frère » au départ. Il veut faire réfléchir ses frères, ses sœurs dans l'Église. Il introduit cela par une diatribe. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire par une critique, une critique acerbe. Il veut en fait pousser les chrétiens à raisonner. Vous en êtes où actuellement avec Dieu? Et puis il va faire un exemple, un espèce de contestataire imaginaire, et il va y avoir une espèce de dialogue qui va se faire entre deux personnes avec un point de vue opposé, pour faire réfléchir justement les chrétiens. On peut se poser la question à qui s'adresser dans l'Église, parce que bon, quand il parle à des frères, ça veut dire qu'ils sont sauvés, mais peut-être là-dedans qu'il y en a qui s'abusaient, peut-être qu'il y avait aussi des faux docteurs dans cette Église, et qui enseignaient peut-être la justification par les œuvres, c'est-à-dire dans le sens où il faut faire quelque chose pour être sauvé. Les religions aujourd'hui demandent de faire quelque chose pour être sauvé. La Bible nous dit qu'il faut être justifié par la foi et les œuvres. Et on va voir ça, justement. Donc, la preuve d'une foi véritable, nous dit Jacques, à quoi ça sert d'avoir la foi s'il n'y a pas d'œuvre? À quoi ça sert de croire en Dieu si ça ne produit rien dans ma vie? Par exemple, dans l'Église, et il donne un exemple, si on voit un frère qui est dans le besoin, qui est dans la difficulté, qui a besoin de nourriture, et qu'il nous le dit, qu'il nous le partage, et qu'on ne l'assiste pas, qu'on lui dit juste « on va prier pour toi », est-ce qu'on a vraiment la foi, quelque part? C'est ce qu'il dit. Ma foi en Dieu, normalement, est censée aider mon frère qui est dans la difficulté. Alors, peut-être pas forcément par moi seulement, mais on peut s'aider mutuellement. On peut en parler, en tout cas, en disant « voilà, je sais que quelqu'un est dans une situation difficile, comment l'aider ?» Et ça démontre justement ma foi. Il s'agit d'agir en l'aidant. Je fais quelque chose quand je vais l'aider. Et ça démontre que j'ai la foi, justement, que je vais faire ce que Dieu me demande. La non-assistance de cette personne, quelque part, démontre que soit je m'en fous, t'as qu'à crever, excusez-moi le terme, ou alors c'est que j'ai pas la foi du tout, qu'elle est morte, comme dit Jacques. Et ça, c'est cruel, quelque part, de pas assister son frère. Dans 1 Jean 4,20, il dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère », c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si je n'aime pas mon frère, si je ne l'aide pas quand il est dans une situation difficile, je suis cruel, quelque part. Je suis méchant. Quelque part, je n'aime pas Dieu non plus. Puis Jacques de dire, de se poser, enfin de nous faire poser la question, est-ce que je suis sauvé si j'ai une foi sans les œuvres? Parce que c'est ça qu'il veut dire à ses frères, entre guillemets. Ben non, je ne pense pas être sauvé si j'ai une foi qui n'a aucune œuvre, elle est complètement factice, elle n'existe pas. Il ne s'est rien passé dans ma vie, on n'est pas né de nouveau comme on a vu tout à l'heure, puisqu'il ne se produit rien ensuite avec cette nouvelle naissance. Le salut vient par la foi, nous dit la Bible, mais elle s'accompagne aussi des œuvres. Romains 3, 28, il est dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Il ne s'agit pas d'être sous la loi pour être justifié. Et puis Éphésiens 2, 10 « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » On n'était même pas nés que Dieu avait déjà prévu des choses pour nous. Et vous, qu'on y réfléchit un petit peu. Mais est-ce qu'on le sait? C'est ça la question. Donc les œuvres, nous dit Jacques, c'est une démonstration visuelle de ma foi, tout simplement. Et que cette foi, elle est véritable en moi, et que je suis réellement né de nouveau. Quelqu'un qui n'a pas d'œuvre, qui n'agit jamais en tant que chrétien, il doit se poser la question, est-ce qu'il a vraiment la foi? Et derrière, savoir s'il est vraiment sauvé. Et ça, c'est grave. Il y a beaucoup de gens qui s'abusent, qui croient être chrétiens, qui croient être sauvés, mais qui ne le sont pas. Ils se retrouvent en enfer et disent, mais j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe? Là, Jacques veut vraiment faire réfléchir ces chrétiens et peut-être ceux qui ne le sont pas non plus. Il dit au verset 17, « Une foi sans œuvre est morte. » C'est quoi quelqu'un de mort? T'es mort, il n'y a rien, c'est vide. Si la foi n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Dans la version Darby, il traduit plutôt, « De même, ainsi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. » Une foi qui n'existe pas finalement, morte, le mot c'est nécro et ça vient de necus qui veut dire cadavre, elle est une espèce de cadavre qui n'existe pas, cette foi-là. Évidemment, métaphoriquement, Jacques me dit qu'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de vie tout simplement dans cette foi-là, donc elle est complètement inexistante. Une foi sans œuvre n'a pas de réalité, elle n'existe pas. Je peux m'abuser, me dire que j'ai la foi, on va voir ça un peu plus tard, mais s'il n'y a rien qui est produit avec cette foi, elle n'existe pas, tout simplement. Où en est ma foi? Ça, c'est à chacun d'entre nous de se poser cette question. Où elle en est? Suis-je en action avec le Seigneur? C'est pas aller à l'église, être en action seulement, c'est agir comme Dieu veut qu'on agisse. Si j'ai quelqu'un qui est dans la difficulté, par ma manière de vivre, est-ce que cette foi, elle est vivante chaque jour? Ouais, je suis chrétien, mais je vois pas bien la différence avec ce qui s'est passé avant et maintenant. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de maintenant, et ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. À partir du moment qu'on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe? La vie est belle. Il y a plein de choses qui changent, alors pas forcément brutalement, mais on voit bien que le Seigneur nous travaille, agit dans notre vie, nous change, nous transforme, que nous-mêmes, nous ne détestons plus les gens, que nous nous mettons peut-être de moins en moins en colère, qu'on a envie de servir le Seigneur, chercher le royaume qu'on a chanté tout à l'heure. Il se passe quelque chose dans une foi, dans une vie où la foi, elle est vivante. La Bible nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et le vrai chrétien aide, aime et agit comme Jésus-Christ agit. Donc Jacques dit que la vraie foi, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau, qui est converti, va automatiquement produire des œuvres qui sont dignes du Seigneur. S'il n'y a aucune œuvre, si je ne suis pas actif, s'il ne se passe rien dans ma vie en tant que chrétien, il faut se poser la question, sérieusement. Puis il fait une deuxième constatation, la foi sans les œuvres est inutile. Et il nous dit, verset 18-19, que la foi se démontre visuellement, on le voit. Il ne s'agit pas que de parler. Je peux dire, j'ai la foi et ne rien faire. Ça se voit. Et dit, toi, puisque là il va prendre le contestataire, toi, démontre ta foi sans les œuvres. Tu crois, mais tu n'agis pas. Montre-moi que tu as vraiment la foi. Si moi je dis que je suis un artiste peintre et que je n'ai jamais peint un seul tableau, vous pensez que je suis artiste peintre? Vous allez dire, tu te moques de nous, non? Prouve-le que tu es artiste peintre. Ben c'est pareil, prouve que tu es un chrétien, prouve que tu as la foi. Et ça se voit, tu ne produiras pas forcément des tableaux, mais si, il y a des tableaux spirituels, entre guillemets, qu'on va produire avec les gens qu'on fréquente et dans notre vie. On ne peut pas se dire chrétien sans qu'on le voit. C'est l'autre qui voit ce que je fais en tant que chrétien. Si je ne vois rien chez cette personne qui se dit chrétien, c'est pas un peintre, c'est pas un chrétien, hélas. La foi est visible, ça se voit dans le service, ça se voit dans la consécration, ça se voit dans l'amour qu'on a pour les uns, mais aussi pour Dieu. Ça se voit dans le pardon, quand on m'offense, je pardonne. Ça se voit dans le travail de sanctification, parce que quand ça fait 20 ans que je suis chrétien et qu'il n'y a rien qui a changé dans ma vie, Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Ça se voit. Ce n'est pas flagrant non plus, mais ça se voit, quelqu'un qui aime, non ? Normalement. Et puis, il prend l'exemple, il revient avec son contestataire, et moi, maintenant, à toi, là, qui dis avoir la foi, mais qu'on ne voit rien, moi, je vais te démontrer que mes œuvres prouvent que j'ai la foi. Le fait que je peins des tableaux démontre que je suis artiste-peintre. Bon ou mauvais, on s'en fiche. Je suis artiste-peintre parce que je fais des tableaux. Et il dit, et prend un exemple assez stupéfiant, il dit que les démons croient en Dieu aussi. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils l'ont vu. C'était des anges avant qui étaient dans la gloire de Dieu. À un moment, ils sont allés avec Satan, ils se sont rebellés. Mais ils ont vu Dieu. Nous, on n'a pas vu Dieu. Eux croient en Dieu. Et là, il prend cet exemple tout simplement pour faire comprendre qu'eux, ils tremblent devant Dieu. Ils ont peur de Dieu parce qu'ils croient en lui. Mais la crainte ne suffit pas de Dieu. Eux n'ont pas obéi à Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui craignent Dieu, peut-être, qui croient en Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Parce que ça ne suffit pas de croire ou de craindre. Il faut obéir à ce que Dieu nous dit. Le démon ne va pas obéir à Dieu puisqu'il s'est rebellé. Et beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui croient être sauvés n'obéissent pas à Dieu. Et ça, c'est une foi qui est morte finalement. Elle n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il prend cet exemple-là. On peut craindre Dieu en long et en large, on peut dire qu'il existe, mais si je n'obéis pas à ce qu'il me demande, quelque part, je me fiche de lui. Je sais qu'il existe, je sais qu'il me demande quelque chose. Ah non, j'ai pas envie d'obéir. Quelque part, je me moque de lui et je désobéis. Et forcément, je ne peux pas me dire chrétien dans ce cas-là. La foi se voit donc par les œuvres, et c'est ce qu'il dit là. Celui qui dit « j'ai la foi » mais qui démontre en rien n'est pas sauvé. Celui qui prouve sa foi par les œuvres, celui-là est vraiment né de nouveau. Et au verset 20, il dit « cette foi-là qui ne prouve pas ses œuvres, elle est complètement inutile. » Et il parle de lui comme un homme vain, un homme qui est vide, un homme qui est sans résultat. Forcément, il n'y a rien derrière cette foi. Et elle est inutile. C'est-à-dire que le mot grec, un peu plus précis, elle dit « elle ne fonctionne pas, elle est vaine, elle ne travaille pas à quelque chose. » Donc elle est morte, tout simplement. Vous savez, si vous avez une voiture que vous n'utilisez jamais, elle sert à quoi, la voiture ? Donnez-la moi. Je la revendrai à quelqu'un qui en a besoin, peut-être. Mais ça ne sert à rien. Si je dis que j'ai une foi et qu'elle ne produit rien, ça ne sert à rien de la voir. C'est débile, quelque part. Donc, c'est qu'elle n'existe pas non plus et qu'elle est morte. À quoi bon avoir la foi si elle est inutile ? Cela signifie que je ne suis pas tout simplement sauvé. La foi authentique est donc agissante, productive et visible, tout simplement par les œuvres, par rapport à ce que je fais dans ma vie. Il ne s'agit pas d'être tout le temps en train de faire des choses, on est bien d'accord, mais quand quelqu'un est dans la difficulté, quand quelqu'un me fait du tort, ben j'agis comme le Seigneur me demande d'agir. Je pardonne, j'aide, etc., etc. Puis, une troisième chose que Jacques fait, il va prendre deux exemples dans l'Ancien Testament pour appuyer ce qu'il est en train de dire là. Il va prendre les œuvres d'Abraham et de Rahab et va montrer qu'ils ont été justifiés justement par la foi. Alors de quelle œuvre parle Jacques là ? Parce qu'on pourrait se dire, mais Paul il dit qu'on est justifié par la foi. Et Jacques dit qu'on est justifié par les œuvres. Ils ne sont pas copains les deux. Ils sont en contradiction ? Pas du tout. C'est ce qu'il va démontrer là tout simplement. Ils ne sont pas en train d'opposer les idées. Tous les deux sont d'accord. Et Jacques va expliquer justement... Enfin, il va aller un peu plus loin que ce que Paul disait. On est justifié par la foi, mais la foi va aussi se prouver par les œuvres, tout simplement. Et il prend Abraham, et ça, c'est pas n'importe qui, le père de la nation pour eux, pour les Juifs. Et lui, il est dit au verset 21, il a été justifié par ses œuvres. La foi d'Abraham a été prouvée. Vous savez, quand on vous demande d'aller sacrifier votre fils et que vous le faites, c'est que vous croyez vraiment en Dieu, c'est que vous craignez vraiment Dieu, et c'est que vous obéissez à Dieu. Et là, il a démontré tout simplement sa foi, et non seulement qu'il croit en Dieu, mais aussi qu'il veut obéir à Dieu. Le mot « justification » dans l'Ancien Testament exprimait un verdict de non-culpabilité rendu sur la base d'une justice évidente ou de la fidélité par rapport à une alliance. On pourrait globalement parler de « il était justifié parce qu'il était fidèle tout simplement à Dieu et parce qu'il obéissait à Dieu ». Et donc, Dieu a déclaré Abraham comme étant juste, mais sur la base du fait qu'il était fidèle à Dieu, qu'il a obéi tout simplement à Dieu. Et il l'a fait dans des circonstances pas vraiment évidentes. Vous avez déjà essayé de... Enfin, on vous a déjà demandé de sacrifier votre fils, votre fille, ça vous dit ? Je ne sais pas si on va obéir. Mais bon, c'était Abraham, c'était une épreuve propre à lui-même. Jacques va montrer que c'est une preuve, justement, les œuvres que Abraham a fait. C'est une preuve. Tu vois que la foi, il dit, agissez avec ses œuvres. Ça travaille ensemble. Hein. Et Abraham, en allant sacrifier son fils, a démontré qu'il craignait Dieu. Il n'a pas fait que ça, hein. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Ce qui est formidable, c'est qu'on sait aussi qu'Abraham n'a pas fait que des bonnes choses. Mais pourtant, Dieu l'a justifié quand même par ses œuvres. Le mot « agir », ça veut dire « travailler ensemble », être associé. La foi, travailler avec les œuvres. Les œuvres étaient produites par cette foi. Coopérer ensemble. Et ça prouvait justement que cette foi était vivante, agissante, et qui croyait vraiment en Dieu, prêt à obéir à n'importe quel prix. Est-ce que notre foi est comme cela? Est-ce qu'on est prêt à obéir à n'importe quel prix à Dieu? Grande question, hein. Ainsi, par les œuvres d'Abraham, sa foi lui fut rendue parfaite. Le mot voudrait dire « cette foi fut rendue complète ». Hein, on est allé au maximum de cette foi, mais c'est ce que veut faire le Seigneur avec chacun d'entre nous, et c'est pour ça qu'il permet des fois des épreuves, des difficultés, pour que justement bah, cette foi grandisse, qu'on croit de plus en plus en Dieu et qu'elle se complète de plus en plus. Donc il n'y a pas de contradiction avec la justification par la foi de l'apôtre Paul. La foi se démontre, par les œuvres. Mais évidemment, j'ai été justifié par la foi. Il a cru. Et le verset 23 dit « Cela lui a été imputé à justice. » C'est parce qu'il a cru qu'il a agi. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous n'allez pas agir. On est bien d'accord. C'est logique. Mais c'est parce qu'il a cru qu'il a agi. Pas comme ces démons qui savent, qui croient, mais qui n'agissent pas, ou qui n'obéissent pas à Dieu. Lui, il a agi. On n'obéit pas à Dieu si on ne croit pas en lui. C'est logique, quelque part. Je ne vais pas obéir à quelqu'un en qui je ne crois pas. Et cela, cette foi de Abraham fut imputée à justice. Dans Genèse 15, 6, hein, donc ça a été déjà dit avant, il dit « Abraham eut confiance en l'Éternel ». Là-dedans, on parle de fidélité aussi, et qu'il lui a imputé cela à justice. Donc Jacques reprend tout simplement ce qui a été déjà dit dans l'Ancien Testament. Et c'est là où on voit que la parole de Dieu n'est jamais en contradiction, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que ça a été porté à son compte. Hein. C'est ça que veut dire l'expression. Dieu porta l'obéissance au compte d'Abraham, tout simplement. Comme s'il s'agissait là d'un acte de justice. Vous savez, quand on est justifié, c'est-à-dire au moment où on est de nouveau, on demande pardon au Seigneur pour nos péchés, le Seigneur nous justifie. Ça veut dire qu'il nous déclare juste devant lui. Ça, c'est un acte de justice. Moi, j'aime bien dire, c'est un peu mon brevet, quelque part, qui est affiché aux côtés du trône de Dieu. Personne ne peut aller l'arracher. C'est Dieu qui me déclare juste. C'est exactement ce qui est arrivé là à Abraham. Par ses œuvres, il a été tout simplement déclaré juste, mais en préfiguration, évidemment, de Jésus qui va venir plus tard et qui va pardonner pour nos péchés, tout simplement. Mais ce n'est pas au moment où il allait sacrifier Isaac que ça a été imputé, c'est bien avant, parce qu'à un moment, il est demandé à Abraham de quitter son pays. Si demain, Dieu vient vous voir et vous dit « quittez votre demeure, votre travail et tout ça pour aller, je ne sais pas, dans un pays compliqué, qu'est-ce que vous faites ?» Normalement, on dit « c'est que vous manquez de foi ». Eh oui, c'est ça la preuve. Hein. C'est que c'est pas facile quand même de tout quitter du jour au lendemain comme ça. Et Abraham l'a fait. Et c'est là que cette foi a été imputée à justice. C'est au moment où il a obéi à Dieu et qu'il a commencé à faire confiance en Dieu. Faites attention parce que Dieu peut nous le demander ça à un moment. Hein. Là, vous n'êtes pas trop chaud, j'ai l'impression. Hein. Il peut le faire dans d'autres domaines de notre vie, mais est-ce qu'on est prêt? Où en est ma foi, justement? Est-ce qu'elle est vraiment authentique comme celle d'Abraham? Lui a quitté tout et il a suivi Dieu. Il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas ce qui allait lui arriver, mais il a fait confiance tout simplement en Dieu. Il faut donc d'abord croire en Dieu, ça c'est une chose, mais ensuite il faut aussi obéir à ce que Dieu demande. Quand Dieu dit aux gens de se repentir, beaucoup croient en Dieu mais ne se repentent pas. Quelque part, ils désobéissent à Dieu et évidemment, ben, ils le paieront cher plus tard. Il faut obéir à ce que le Seigneur me demande. Et quand j'obéis, ça produit des œuvres et ça démontre justement que je crois vraiment en Dieu, que je suis sauvé et que je suis né de nouveau. Mais faire des œuvres sans croire, parce que ça c'est la religion qui le demande, faites, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. C'est bien, parce que quand on fait du bien aux autres, c'est toujours bien, c'est pas perdu quelque part. Mais ça ne sauve pas. Il faut que je démontre ma foi par mes œuvres. La vraie justification se réalise par la foi qui est démontrée par les œuvres. Comme la justification d'Abraham a précédé ses œuvres, il a cru, puis il a obéi à Dieu. D'abord, il est parti de son pays, puis après, il a offert Isaac, puis il a fait un tas de choses ensuite, et Dieu, évidemment, l'a béni, mais il a démontré qu'il voulait vraiment être fidèle à son Dieu. Et donc, Dieu a validé, on pourrait dire, entre guillemets, la foi d'Abraham, parce qu'elle a été démontrée par ses œuvres. La foi et donc les œuvres, ça marche absolument ensemble. Si je dis que j'ai la foi, il se produit quelque chose dans ma vie et je vais produire quelque chose avec ma foi, l'amour, le service, un tas de choses que le Seigneur nous demande, tout simplement. Et c'est intéressant qu'il prend ensuite un autre exemple, Rahab. Alors, il passe du père de la nation à une prostituée. Pourquoi il fait ça ? Mais simplement pour montrer plusieurs choses. Dans Hébreux 11, 31, il est dit de Rahab, « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Et il prend cet exemple pour faire un contraste. Tout simplement que la justification ne se base pas sur le mérite. Ce n'est pas parce qu'Abraham était le père de la nation qu'il méritait d'être sauvé. Regarde, c'est ce qu'il nous dit, Rahab, une prostituée, a aussi été justifiée par la foi. Donc ce n'est pas le mérite ou le prestige peut-être qui justifiait, non. Deux personnes complètement différentes ont été justifiées par la foi. Rahab avait accueilli les espions à Jéricho. Elle avait entendu parler du peuple qui arrivait avec Josué. Elle a cru que c'était vraiment Dieu qui accompagnait ce peuple. Et elle a cru vraiment que Jéricho allait être détruite. C'est pour ça qu'elle a aidé les espions à s'enfuir. Et ça lui sera imputé à justice. Donc sa foi en Dieu, elle aurait pu croire. Elle aurait pu dire, oui, ils vont venir détruire Jéricho. Mais bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle a obéi aussi. Cette fois, s'est mise en action. Et elle a agi pour aider les espions à ce moment-là, et Dieu l'a vu, et ça lui fut imputé aussi à justice. Donc dans ces deux exemples, on voit la foi d'Abraham en tant que père de nation, et on voit aussi la foi de cette simple femme, mais les deux ont fait exactement la même chose. Ils ont cru, on va garder le masculin, ils et elles ont cru, et ils ont agi ensuite, ils ont fait des œuvres, tout simplement, pour démontrer leur foi. Donc la foi a bien précédé les œuvres. Si je crois en Dieu, vraiment, il faut que je fasse quelque chose dans ma vie. Déjà, naître de nouveau, si ce n'est pas fait. Mais ensuite, évidemment, j'ai tout un tas de choses à faire pour le Seigneur. Là, il faut lire la Bible, évidemment, pour savoir ce que le Seigneur nous demande. Une foi authentique, donc, produit obligatoirement quelque chose dans la vie de celui qui est né de nouveau, et quel que soit ce qui vous est arrivé avant. Et il fait une synthèse au verset 26, une espèce de métaphore. Il dit qu'un corps sans âme est mort. Quand notre âme va quitter notre corps, on sera mort. Voilà, le corps ne pourra plus bouger. Et c'est exactement la même chose pour la foi. Comme une personne est inexistante quand elle est morte, si cette foi elle est morte, elle est inexistante. Elle n'existe pas, tout simplement. Et là, il faut quand même se poser la question où en est ma foi. Est-ce qu'elle est vraiment vivante ou est-ce qu'elle est morte ? Celui qui n'a pas d'œuvre, c'est ce qu'il dit, c'est la synthèse qu'il fait à la fin, celui qui ne produit pas d'œuvre, qui n'agit pas comme Dieu demande, il n'est pas converti tout simplement. Il est perdu. Luther écrivait « Oh, cette foi est vivante, active et puissante. Il est impossible de ne pas faire sans cesse de bonnes choses. Elle ne demande pas s'il faut pratiquer de bonnes œuvres. » Il ne se pose pas la question, car avant que la question ne soit posée, elle les a déjà produites et continue de les produire. Pourtant, celui qui n'accomplit pas de telles œuvres est un incrédule. Il tâtonne et cherche la foi et les bonnes œuvres, mais ne sait ni ce qu'est l'une ni ce qu'est l'autre. Mais il parle sans cesse abondamment de la foi et des œuvres. Lui avait compris que la foi s'exprimait aussi par les œuvres, alors que lui, autrefois, faisait l'inverse. Il avait compris une belle vérité à ce moment-là, pendant la réforme. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais nos œuvres démontrent notre salut. Ça va dans la tête, ça, ça fait des va-et-vient, mais je sais, mais c'est ça, et c'est tellement important. C'est un bon test, en fait, pour savoir si aujourd'hui je suis sauvé ou pas. Est-ce que ma foi produit des œuvres ? Est-ce que ma foi, elle est vraiment vivante ? Pas vivante comme j'ai envie, attention aussi. Pas agissante comme j'ai envie, mais agissante comme la parole de Dieu nous le demande. Et évidemment, il faut la connaître. Et c'est là où on voit, effectivement, si je suis né de nouveau ou pas. Jacques démontre donc que la foi, le fait d'être justifié, d'être déclaré juste, se prouve tout simplement par une obéissance agissante. Je veux, parce que je crois en Dieu, absolument agir comme Dieu le demande. Ça ne veut pas dire d'être parfait, hein. Je ne vais pas non plus pousser le truc trop loin. On veut se laisser faire changer par Dieu, être sanctifié comme dit la Bible. On veut servir Dieu parce qu'il nous demande de le servir. On veut apprendre à pardonner, à aimer le prochain comme Jésus l'a fait pour nous. On veut faire tout simplement ce que Dieu nous demande. Et si on veut le faire, Dieu va aussi nous aider à le faire tout simplement. Et c'est ça qui prouve effectivement que je suis né de nouveau, qu'il y a un passé. Avant, je n'agissais pas de cette manière-là. Maintenant, j'agis d'une autre manière, selon ce que le Seigneur me demande. Pour terminer, première chose, une foi sans œuvre, nous dit Jacques, elle est morte, inexistante, parce qu'elle ne sert tout simplement pas Dieu. Ça ne sert à rien de croire en Dieu si cela ne produit rien. C'est que vous ne croyez pas vraiment en Dieu. Parce que si on croit vraiment en Dieu, on a vu que les démons, eux, tremblent, même s'ils ne veulent pas le servir. Mais si je crois vraiment en Dieu, moi aussi je tremble, normalement. Et parce que je tremble, j'ai envie d'obéir à Dieu. Ou alors je fais semblant de trembler, tout simplement. Deuxième chose que Jacques nous dit, la foi sans œuvre est inutile. À quoi bon croire en Dieu si on ne lui obéit pas? On va bientôt faire la rentrée dans l'Église et on va parler de service que chacun, normalement, a dans cette Église, ou dans l'Église où Dieu l'a placé. Où est-ce que j'en suis? Ça aussi, c'est une démonstration de ma foi. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur dans son Église? Une troisième chose, une foi sans œuvre est une foi factice. C'est en fait, je me trompe moi-même. Ouais, je crois en Dieu. Ouais, ouais, je suis sauvé. Mais en fait, je me leurre complètement. Je ne suis pas sauvé. Puisqu'il ne se produit rien dans ma vie. Ça ne sert à rien de craindre Dieu si on ne lui obéit pas. Ça ne sert à rien du tout. La vraie foi, Jacques nous dit, elle est vivante, elle est démontrée visuellement par les œuvres, par l'obéissance à Dieu. Et si, comme l'exemple qu'il a pris, quelqu'un est dans le besoin, la foi, normalement, produit cette œuvre d'aider la personne. Alors, on n'aide pas tout le monde n'importe comment non plus, on est bien d'accord, mais je vais avoir au moins de l'amour pour cette personne, de la compassion pour cette personne. Si moi, je ne peux pas aider, eh bien, je vais demander à quelqu'un d'autre de l'aider. Je vais voir le conseil, ou je vais voir... Voilà, on peut agir d'une manière ou d'une autre, mais je ne peux pas rester insensible quand même aux besoins de cette personne-là, parce que justement, j'ai la foi. Si nous sommes réellement convertis, alors il se passe quelque chose dans notre vie. Il se passe des choses dans notre vie, pas seulement qu'à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, pour les autres, par amour pour les autres. Les œuvres vont se manifester obligatoirement. Alors, si nous avons la foi vraiment, bah manifestons ces œuvres les uns pour les autres. Et on a vu que Dieu les a préparées d'avance, de toute éternité. Ça veut dire qu'il a un job pour chacun d'entre vous. Ah, oh, moi, c'est les vacances, hein. Eh non, c'est pas les vacances avec le Seigneur. C'est pas seulement changer intérieurement ces œuvres, mais c'est aussi produire quelque chose vers l'extérieur. Dieu vous a donné un don, des qualités, voire plusieurs qualités. C'est quoi votre qualité à vous? Posez-vous la question pendant que vous êtes au bord de la plage, peut-être, et revenez avec la réponse pour la rentrée, et on va vous mettre au travail, tout simplement. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui, parfois, nous bouscule peut-être un peu et remet en question peut-être ce que nous considérons être comme vrai, tel que la foi. Et certainement que les auditeurs de Jacques se sont posés plein de questions. Et Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs et tu sais exactement où nous en sommes dans cette foi. Que nous ne soyons pas avec cette foi qui est morte, inutile, qui ne sert à rien, mais avec cette foi qui est agissante, comme toi tu as agi autrefois, Seigneur. Apprends-nous à obéir à cette foi. Pour cela, évidemment, il faut connaître aussi la Bible et savoir ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Apprends-nous à la mettre en pratique pour ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui ont besoin d'aide, pour ceux qui sont simplement devant nous, Seigneur. Produis en nous des œuvres, comme tu as dit, tu les as préparées d'avance. Nous avons des choses à faire pour toi, Seigneur, pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors fais de nous des gens vivants, agissants, et tout cela pour ta simple gloire. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.